Bonjour, c'est Erwan du Tarn. Je viens d'entendre l'émission là sur les riches qui se barrent à l'étranger avec leur thune. Et ça me fait complètement délirer de voir qu'il y a donc des gens qui se posent la question de savoir s'ils gagneront plus d'argent en Belgique plutôt qu'en Suisse ou s'ils économisent plus comme ça. Enfin, il y a vraiment un monde avec plusieurs vitesses. Et voilà, moi je suis au volant de mon camion pour aller faire des petites animations et c'est sûr que c'est le genre de problème que j'aurai jamais. Bonne journée, à plus.
Daniel, j'écoute les infos depuis plusieurs jours. Et un coup de 900 milliards, un coup de 80 milliards, un coup de 250 milliards, un coup de 90 milliards, un coup de 100 milliards, tout cet argent ingurgité dans l'économie capitaliste, soit par la Fed, soit par la BCE, soit par les États, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Et puis après, tu entends juste derrière, une petite infirmière qui gagne 1300 euros, elle est obligée d'aller à la banque alimentaire pour nourrir ses gosses. Alors, on marche plus sur la tête, on marche sur la pointe des cheveux. On part en couille, parce qu'avec tous ces milliards qu'ils avaient en caisse, on aurait pu en résorber de la misère. Hein. Non ? Enfin, il vaut mieux le redistribuer à ceux qui en ont, et qui vont peut-être tout perdre. C'est peut-être ça, le capitalisme. Ciao, Daniel. Vive le monde.
Salut, Daniel, et salut à tous les AMG. Merci pour cette émission sur les évadés fiscaux en Belgique. Alors j'avais une petite question pour vous tous. Il paraît qu'il est mal de faire payer les enfants pour les fautes de leur père. Pourquoi serait-il bien de leur faire profiter des biens de leurs parents ? Allez, salut à tous, c'était Charlie.
Ah, Daniel, bonjour. C'est Jean-Paul de l'Essonne, là je suis en train d'écouter ton émission sur les riches en Belgique. Je suis absolument effaré parce que je m'attendais bien à des paradis fiscaux, mais à ce point-là, mais ce qui m'effare le plus, c'est qu'on ait signé les accords de Lisbonne, c'est qu'on ait signé le traité de Nice, c'est qu'on ait signé tout un tas de traités pour l'Europe, soi-disant l'Europe unie, et qu'on arrive à avoir des paradis fiscaux à l'intérieur de l'Europe. C'est absolument impensable. Et ce qui m'indigne le plus, mais vraiment indigne, mais je suis complètement indigné, c'est que les partis de gauche, que ce soit le Parti Socialiste, enfin, tous les partis de gauche auxquels je fais partie, ne s'insurgent pas en premier, qu'on nous tienne pas au courant avec nos petits forfaits pharmaceutiques, nos petites conneries, nous les pauvres. Et là, quand on entend ça, mais on peut être que scandalisé. Et c'est, si les gens de gauche étaient un tout petit peu virulents, étaient un tout petit peu comme toi, faisaient des enquêtes approfondies, enfin, c'est même pas des grandes enquêtes à faire, puisqu'ils en ont les moyens, nous, le petit peuple au courant, mais on aurait voté à 70% pour la gauche. On n'aurait pas voté, on n'aurait jamais laissé passer une espèce d'abruti comme Sarkozy. Enfin, c'est scandaleux, quoi, scandaleux. Je suis révolté. J'ai 65 ans, je suis de plus en plus révolté. J'ai toujours 18 ans, quoi. C'est affolant, affolant. Vraiment, la révolution est au bout du fusil. Allez, salut Daniel.
Idyllique, paradisiaque, agréable, devant-moi la mer bleue, turquoise, des gens qui se baignent, une terrasse. Nous sommes à Lampedusa. Lampedusa, c'est une île entre la Sicile et la Tunisie, pas loin de la Tunisie, un petit paradis pour les touristes qui profitent de l'arrière-saison. Alors c'est pas tout à fait un paradis pour tout le monde, c'est aussi un enfer pour les clandestins qui viennent d'Afrique, un peu partout en Afrique, et qui pour certains arrivent jusque-là dans des conditions épouvantables, absolument épouvantable. Et ils sont de plus en plus nombreux à faire le voyage et à arriver jusqu'ici pour ceux, encore une fois, qui arrivent vivants. La quantité de ces clandestins, de ces réfugiés, a doublé depuis l'année dernière. Il en arrive par centaines chaque jour. Et entre le tourisme et l'immigration, eh bien là, ça se jouxte, ça s'ignore, même si quand même les migrants qui arrivent peuvent, en arrivant, encore une fois pour ceux qui sont à peu près en bon état, eh bien apercevoir des filles en maillot, en string, en train de s'adorer la pilule. Voilà, nous sommes à Lampedusa et nous continuons notre voyage dans cette belle Italie, celle de notre ami Berlusconi. Merci pour tous vos messages, notamment ceux concernant la Belgique. Comme ça vous a plu, et bien on en met une petite couche aujourd'hui. On retourne au paradis des riches, qu'est cette Belgique. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas. Si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, je voulais que les auditeurs modestes et géniaux fassent attention aux sommes dont on parle. Des milliards de dollars, en veux-tu, en voilà, qui font le tournis. Mais on n'y comprend plus rien. La bête a besoin de sang, et voilà que la bête en a jusqu'à l'indigestion. Et on nous en rajoute une petite couche sur France Inter, en nous rappelant que Pascal Lamy, qui sort enfin de sa léthargie, après le réveil discret du FMI et de Dominique Strauss-Kahn, il faut plus de libéralisme, il faut signer les accords de l'OMC. Et voilà, le tour est joué. Au plus on parle de la crise, au moins on le sent. Bisous, vive les AMG, Pascal.
Oui, bonjour à tous. C'est un petit message du repère du 20e arrondissement à Paris pour vous rappeler qu'on se retrouve samedi prochain, le 20 septembre à 17h au lieu dit 6 rue Sorbier, j'ai pas oublié ce coup-là. Venez nombreux parce qu'on a plein de trucs à organiser pour les semaines qui viennent. Voilà, bis à tout le monde et puis bon week-end. Salut.
Et oui, il va falloir faire la chasse aux fraudeurs de l'assurance maladie. Oh, les vilains, les impétrants, les horribles. Et avec tout cet argent qu'on aura récolté, enfin que Nicolas aura récolté, il pourra le donner à Bernard, à Nanar, son nouveau copain, à Bagouze, hein, la cagole de la finance. Eh bien voilà, hein, les vases communicants, c'est quand même pratique. Allez, Français, à vos économies. Fouillez dans vos poches, parce que bientôt, il va falloir aussi rembourser les trous des banques. Eh oui, les bénéfices sont privés. Les pertes, c'est pour nous. Merci.
Salut à toi, Daniel. Salut à tous les AMG. Merci d'abord pour le ballon d'oxygène là qui nous permet d'être un peu en apnée dans un monde parfois bizarre. Donc, je t'appelle Michel Charles. Donc, je suis le maire d'une petite commune de Côte d'Or, 58 habitants. Mais par contre, 300 vaches, commune rurale. Et on fait le week-end, ce week-end, là, autour du bio, une foire bio, avec trois événements. Vendredi 19, donc un bal traditionnel. Le samedi 20, un film débat. Le thème, c'est la nourriture peut-elle nuire à la santé. Et surtout le dimanche, une quarantaine d'exposants autour du bio, des énergies renouvelables, dans l'esprit de la relocalisation de pas mal de choses. Et donc, ma foi, je ne sais pas si ça passera, mais donc c'était pour un petit côté pour une journée repère de là-bas si j'y suis, ouais, avec des petites conférences, voilà. Alors, en tout cas, merci pour tout et puis tiens bon la rampe, voilà.
Un contrôle fiscal par an. Alors je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais c'est épouvantable.
Le régime belge, si je peux schématiser, est un enfer pour le travailleur et un paradis pour le rentier.
Le socialisme fabrique des pauvres, vous êtes élu.
Être riche, c'est en soi une malédiction, enfin.
Ah, mon mari, il a une grosse boîte de promotion immobilière, il a un bureau pour l'agent du fisc. Il est là 3 mois par an. Donc ils sont installés, ils demandent des papiers, on les fait bouffer, ben voilà.
C'est la Gestapo, carrément.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, et j'y suis avec Pascal Pascagnello et le concours de Monsieur François Latour. SDF, Bruxelles, Terre d'Asile.
Centralisé, je crois. Mais ça dépend des moments, ça dépend du caractère de ma voiture. Bonne humeur ou pas.
Allez, on repart.
Allez. Alors donc là, Anne-Marie, hein, ça fait 2 jours, vous avez accepté de nous guidé pour une installation à Bruxelles. Donc c'est quoi? C'est le guide de l'installation à Bruxelles.
Il y avait le guide du routard, maintenant ça serait le guide du Richard.
Le guide du Richard, oui, c'est mieux le guide du riche, non? C'est le guide du riche quand même. C'est pas pour les pauvres là. Oui, Richard, je suis pas gentil. Le guide du nanti, du non. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas de mot gentil pour dire le riche. Le mot riche est un mot qui a été mal interprété.
François.
Maintenant, on invente des mots qui sont pas mal. Par exemple, le guide du créateur de richesse. Ça fait un peu.
C'est déjà mieux.
Ah bah oui, parce que c'est déjà. On a presque le sentiment que là, le riche, c'est pas passif, c'est actif.
C'est actif, et il fait quelque chose.
Et il y a un côté artiste, créatif. Vous voyez. Je pense que là, on arrive à redonner ces lettres de noblesse
à l'argent.
Ça,
c'est pas mal. C'est pas mal.
Et je pense que c'est pas un hasard si ce terme est apparu dans les années 80-90 où on remettait en valeur un peu, on cessait quand même de diaboliser. Je sais pas ce que vous en pensez, madame.
Ah ouais, bah, pareil que vous.
Mais oui, cessons de diaboliser les riches, c'est dit avec tellement de mépris. Changeons, évoluons. Permettons à nos amis les riches d'être décomplexés, de se décomplexer et de sortir, pourquoi pas, de leur ghetto. Ghetto du Gotha, en voilà un ghetto du Gotha, Bruxelles. Ils sont venus là, ils sont nombreux, je l'ai dit, ils vivent dans les très beaux quartiers, les plus beaux quartiers de Bruxelles, poursuivis qu'ils sont par ce maudit fisc français. Alors, être riche, avoir de l'argent, on le sait depuis longtemps, ça ne suffit pas. Il faut trouver des justifications. Et à travers l'histoire, eh bien, des justifications ont été trouvées à travers d'autres richesses, à côté de la richesse, du pognon, du gros pognon. Ça ne suffit pas. Il faut le justifier parce qu'il y a quelque chose de violent dans l'accumulation de ce gros pognon par rapport évidemment à ceux qui en ont un petit peu moins, quoi. Alors on a trouvé des tas d'astuces le mérite, qui sont le sang, qui sont l'art, que sais-je encore, les bonnes actions, le dévouement, tout un tas d'arguments qu'on va trouver chemin faisant pour justifier ces privilèges qui sont ceux de nos amis, disons-le franchement, nos amis les riches. Alors on est avec Pascal Pascariello à Bruxelles, avec monsieur aussi François Latour, qui est un jeune homme, qui est professeur de français aux États-Unis et qui vient là un peu pour voir comment son beau-père, qui est un monsieur déjà d'un certain âge, un âge respectable, pourrait s'installer, quels seraient les avantages, par quoi il devra passer, enfin, est-ce qu'on peut l'aider un petit peu à savoir dans quelles conditions quelqu'un d'aisé peut s'installer à Bruxelles. Et puis la dame qu'on entend là, qui vient de parler, elle s'appelle Anne-Marie Mitterrand. Oui, elle a un drôle de nom, elle a un lien de famille assez lointain, il faut bien le dire, avec la famille Mitterrand. Elle porte un nom illustre et elle vit à Bruxelles. Elle s'est installée à Bruxelles depuis pas mal d'années déjà. Elle a la nationalité belge et elle a passionnariat de cet exil fiscal. On ne peut pas ne pas passer par elle, ne pas la rencontrer lorsqu'on est français, riche, et qu'on espère s'installer dans cette bonne ville de Bruxelles. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas, si j'y suis, être riche en soi est une malédiction.
Pour avoir la foi, il faut être charbonnier, pour être mal chaussé, il faut être cordonnier, pour séduire la foule, faut chanter la pêche au moule, et pour pas payer la peau, il faut naître à Monaco. Et c'est comme ça, on y soit qui mal y pense, faut souffrir en silence. Ça sert à quoi de vouloir quitter la France quand on est auvergnat? On peut pas tout à la fois siffler l'apéro et l'opéra. On peut pas, c'est évident, payer content quand on n'est pas content et réciproquement. Costaud, faut manger des épinards, pour se lever tôt, il faut pas se coucher tard. Quand on est costaud, faut se mettre un beau costard, et pour pas payer la peau, il faut naître à Monaco. Et c'est comme ça, comme disait La Fontaine, Mironton, Mirontaine, ça sert à quoi de vouloir quitter la scène quand on ne vous retient pas?
On peut pas tout à la fois siffler l'apéro et l'opéra.
c'est évident. Payer quand on compte, on n'est pas content. Et les îles pour être
spécialisé en VW Audi, mais je peux faire aussi les autres marques, hein, tout ce qui est allemand.
Les enfants ont une grosse voiture commune en France, une Toyota, tu te souviens ? Et il l'a prise, il l'a fait, il l'a soignée, il l'a réparée et je suis repartie avec. Voilà, et il fait un peu de tout, oui. Et en tous les cas, il est efficace, et moins cher qu'en France.
Je suis efficace parce que j'ai des bons ouvriers, hein, ça c'en est un là. En train de...
Il paraît que la fiscalité du travail, enfin, hier on avait un avocat fiscaliste qui disait que la Belgique c'était le paradis pour les rentiers et l'enfer pour les travailleurs.
Tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Point de vue travail ici, en fait, les taxes sont beaucoup trop élevées ici. Pour les ouvriers ici, c'est très difficile.
Oui, ici, le travail est moins cher qu'en Belgique. Hein. Ouais. En Belgique, c'est un drame, quoi. Je sais pas comment. Il faut pas travailler en Belgique.
Vous avez beaucoup de clients français qui viennent changer leur plaque.
J'en ai quand même pas mal, hein, parce que je suis dans un coin où c'est à Uccle. Forcément, à Uccle, c'est le coin privilégié des Français qui viennent s'installer, en tout cas en Belgique, quand ils ont assez de moyens.
C'est le coin privilégié
des Français. C'est les Français qui sont au Paris 16e, viennent souvent par ici. Et évidemment, les prix augmentent beaucoup, beaucoup, beaucoup par ici. Hein. Bon, je vais y aller parce que j'ai quelqu'un qui m'attend là,
Louis,
dans le bureau.
La voiture d'Antigone, c'est la semaine prochaine ?
Non, peut-être dans 2 semaines.
2 semaines.
Parce que je dois encore attendre de conformité de SMARS, et donc dans 2 semaines, je pense.
D'accord.
Alors, on a laissé hier nos héros, vous vous souvenez, dans un vernissage. Eh bien, après ce vernissage, le jeune François Latour est allé dormir dans l'hôtel Conrad. La chambre est à partir de 250 euros la nuit. Mais alors, il est central et c'est là que séjournent les exilés français, fiscaux, lorsqu'ils viennent la première fois pour visiter leur future maison. Et alors, l'hôtel Conrad, très central, très pratique, et sur le site de l'hôtel, on peut lire cette phrase: les chambres les plus grandes et les plus sophistiquées d'un hôtel de luxe à Bruxelles. Il offre un cadre exceptionnellement élégant et chic, où vous pouvez découvrir le luxe d'être vous-même. C'est agréable, non ? Voilà. Et alors, maintenant, eh bien, monsieur Latour, le jeune François Latour, a retrouvé notre Pascal, le Pascariello. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont aller au Cercle de Lorraine. Cercle de Lorraine. Le cercle est très, très important chez nos amis les riches, les cercles, les clubs, les rallyes, on en parlera probablement, etc. Tous ces lieux, ces moyens de faire de l'entre-soi, tant il est important de se connaître, de se défendre. C'est assez proche du communisme, tout cela, hein, des sociétés qui pratique le fourriérisme, enfin, on en reviendra sur toutes ces notions peut-être un peu plus tard. Est-ce que vous vous souvenez d'un certain Seko Kuku Bandu Waza Banga, autrement dit Mobutu? Eh bien, on va chez lui, figurez-vous. Et oui, il avait une maison à Bruxelles, un château à Bruxelles. Il est décédé aujourd'hui, Mobutu, mais il avait un château. Et c'est là que se trouve le Cercle de Lorraine où nous entrons.
Donc ici, c'est le Cercle de Lorraine, qui est l'ancien château du président Mobutu, ici à Bruxelles, et qu'il a habité 2-3 mois par an quand il vivait en Belgique, donc, et quand il venait en Belgique chaque année. Mobutu savait choisir les beaux endroits, comme on dit. Le citoyen, président, fondateur avait bon goût, avait un goût certain.
Bonjour.
Bonjour.
Vicomte, Monsieur
Alors.
Young...
De Jong, D-E-J-O-N-G-H-E, De Jong.
De Jong d'Ardois d'Elbe.
Voilà.
Alors je vous présente Monsieur Latour, son beau-père veut s'installer à Bruxelles.
Il a raison.
Mais c'est pas...
La majorité des Français qui s'installent à Bruxelles aujourd'hui viennent pour des raisons de qualité de vie et surtout qu'il n'y a pas d'impôt sur la fortune et il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Et donc, il y en a certains, ça peut leur faire gagner 1000, 2000, 3000 euros par jour, hein. Pas par an, mais par jour.
Sur le plan fiscal, moi, j'ai bien compris que c'était très avantageux. Donc, maintenant, l'inquiétude, moi, pour mes beaux-parents, qui, lui, étant assez âgé, il a quand même 71 ans, c'est est-ce que, là, vous voyez, les membres du Rotary
Il est sponsor du club de foot à Amiens.
Local, ouais.
Vous voyez, vous connaissez un peu tout ça. Bon, le milieu des notables quoi, de province, c'est est-ce qu'il va réussir à se recréer ce tissu social rapidement sur Bruxelles quoi.
Il y a quelques endroits où il faut être membre. Pour entrer au Cercle de Lorraine, il faut être parrainé. La cotisation est de 1200 euros par an. Le critère d'attribution, c'est ce que vous avez fait dans votre vie ou ce que vous faites dans la vie, l'importance de votre situation, de votre business, de votre carnet d'adresse. C'est surtout ça, en fait.
Et alors, comment vous évaluez ça, quoi ?
Bon, qu'est-ce que vous voulez de nos jours ? Vous voyez le nom de quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous allez sur Internet et... Vous avez tous les détails et donc vous savez très bien si le type c'est l'épicier du coin ou si c'est un chef d'entreprise. Enfin, c'est pas chinois, c'est pas compliqué.
Les occasions de rencontre, alors, c'est autour de quel thème ?
Il n'y a pas de thème précis.
Moi, j'ai vu qu'il y avait dégustation de cigares, quand même.
Oui, il y a, bon, oui, d'accord, il y a dégustation de cigares. La semaine dernière, il y avait un déjeuner-conférence avec le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer. Non. Ah
oui. Il pourrait vous faire une dégustation de patates. C'est vraiment un professionnel dans ce domaine-là, avec la Marquise, la Pompadour.
Ça ne savait pas du tout, tiens.
Pour toi, c'est pays de la frite, alors peut-être que ça pourrait
ça faire. Ça ne savait pas, tiens, c'est amusant. Ça ne savait pas du tout.
Voilà quelque chose qu'on pourrait faire maintenant au Cercle de Lorraine.
Oui, tout à fait, exactement. Oui, pourquoi pas. Voilà une idée à développer. Donc, il y a des missions économiques. Ils ont fait il n'y a pas longtemps une mission économique au Congo, où ils ont été reçus par le président Kabila. Non, il y a des tas d'activités, mais ça fonctionne bien, ça tourne bien.
Et là, il y a beaucoup de Français dans le club de Lorraine maintenant ou...
Je ne pourrais pas dire en nombre exactement parce que certains de ces Français, c'est assez amusant, ne souhaitent pas être dans l'annuaire des membres.
Mon beau-père a toujours refusé de figurer dans le bottin mondain.
Oui, il y a des gens qui disent, nous, on n'a pas envie que n'importe quel épicier du coin puisse prendre l'annuaire et venir nous emmerder.
Vous êtes maire d'Ixelles également ?
J'ai été maire d'Ixelles, je suis maire adjoint maintenant.
D'accord.
Il y a 7000 Français sur 77000 habitants à Ixelles. Depuis 10 ans, et ça n'arrête pas.
Hein. Même avec l'élection de...
Rien du tout, ça n'arrête pas, ça continue.
Sarkozy,
oh ! Voilà ma maîtresse.
Bonjour Anne-Marie.
Bonjour, c'est pas pour la radio.
Voilà ma maîtresse, Anne-Marie Mitterrand.
Méfiez-vous.
Il n'y a pas de photo. Hein.
On a voulu faire des enfants ensemble, mais malheureusement, elle n'a pas voulu.
C'est mon copain.
Au revoir mon amour.
Au revoir mon chéri.
Elle a dit mon chéri, hein, vous avez entendu.
C'est lui qui m'a accueilli quand je suis arrivée hein,
non, parce qu'on
à Ixelles, les... il y a 10 ans. C'est monsieur Yves de Jong qui m'a accueilli il y a 10 ans.
Elle est venue me voir et quand je l'ai vue dans mon bureau, j'ai senti une émotion certaine ou une certaine émotion. J'ai senti certaines raideurs et je n'ai plus pu me passer d'elle.
Mais qu'est-ce qu'il raconte ?
Voilà, la bonne humeur, l'esprit bengalois, il faut bien le dire, mais on est pourtant à Bruxelles, au Cercle de Lorraine, où nous, vous voyez, on découvre du beau monde qui connaît du beau monde, du linge, etc. Voilà, toutes ces expressions prennent corps sous vos oreilles, amis auditeurs. Et là, on va rencontrer Monsieur Tajan, Jacques Tajan, qui est membre du Cercle de Lorraine, qui est ancien commissaire-priseur et qui a vendu son étude à Bernard Arnault et depuis qui s'est installé, de rencontrer quelques petits problèmes avec la justice française, mais on n'en parlera pas. Et putain, on va le dire. Et puis, eh bien, il s'est exilé là et il nous attend.
Peut-être je vous présente, je suis accompagnée de Monsieur Latour qui
moi,
vient.
Je vais me présenter. Voilà. Je suis professeur de français aux États-Unis, au Texas, mais c'est mon beau-père qui envisage de venir s'expatrier en Belgique. Lui était le patron des Chips of Rodolphe, donc dans la Somme, et il continue d'habiter à Amiens. Pas loin, voilà, ouais, à deux heures de route, je pense, en voiture. Donc bon, on a un ami commun. Qui travaille à Radio France et qui m'a proposé de me faire qu'il y ait une journaliste de France Inter qui me prépare déjà en éclaireur le chemin. Donc là, j'ai dit pourquoi pas.
Oui, mais vous savez, non, il y a une société tout à fait extraordinaire qui a été créée à Bruxelles, 228 avenue Louise, qui s'appelle le CET et dont c'est l'entière spécialité, c'est-à-dire qui prend en charge l'immigrant, qui a des enfants inscrits à l'école, inscrits, on immatricule ses voitures, on lui trouve un logement, on fait tout, il ne s'occupe plus de rien, on l'amène pour avoir sa carte de séjour, etc. Donc ne bricolez pas comme ça, adressez-vous à une société compétente. Le 7, et c'est tout à fait remarquable, avec des gens qui vous conseillent pour la banque, pour le notariat, pour la fiscalité. Alors, adressez-vous à des spécialistes. Le 7, c'est ce qu'on appelle un family office.
Ça, c'est l'expatriation clé en main, un peu. C'est...
Exactement. D'accord. Donc, où vous soyez, d'ailleurs, ce n'est pas réservé aux Français, puisqu'il s'avère que même cette société est en train de traiter deux clients suisses qui viennent vivre en Belgique. C'est vous dire si la Belgique est attrayante, n'est-ce pas ?
L'inquiétude, c'est est-ce qu'il va retrouver ici les mêmes liens sociaux que ceux qu'il a construits et que même que plusieurs générations ont construits ?
Écoutez, il ne faut pas faire partie de ces Français qui arrivent ici, qui ont l'horaire du Thalys dans la poche et qui ne pensent qu'au jour ou à la matinée ou la soirée ou qu'ils vont passer à Paris. Donc, évidemment, il y a des Français qui vont se faire coiffer à Paris parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de coiffeur à Bruxelles. Il y a des Français qui vont se faire soigner les dents, il y a des Français pour qui tout est un prétexte. Ceux-là sont malheureux. Je les plains beaucoup. Mon métier était un métier de connaissance des objets d'art. J'ai vendu des objets d'Extrême-Orient, des objets islamiques, des objets italiens, anglais, allemands, etc. Donc, ma curiosité est une curiosité, cosmopolite. Et de plus en plus, je suis venu ici par intérêt et j'y reste par amour. Voilà ce que j'ai coutume de dire. Le Belge, la Belgique est d'abord une capitale extrêmement cosmopolite. Je rencontre des Italiens. Hier soir, j'étais à côté d'un monsieur anglais qui vit ici. Mais tout le monde est en... C'est-à-dire que le Belge, il est né pluriculturel. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'homme d'un village, il est l'homme de plusieurs cultures. Cette ouverture permanente qui persiste, qui persévère et qui, je pense, continuera toujours. Le Belge accueille.
Votre étude a failli être rachetée par Bernard Arnault, si je ne fais pas d'erreur.
Elle a failli, elle a été rachetée par Bernard Arnault, oui. Et moi, c'est ce qui m'a permis de venir me retirer ici, en Belgique, où j'ai un jardin, deux chiens, j'écris, je regarde le ciel. C'est un ciel un peu de boudin, vous savez, c'est un peu les ciels normands ici.
Il a une très jolie femme aussi, il ne faut pas oublier ça.
Ah oui, mon épouse est japonaise, au lieu de vous dire, qui est une fille remarquable, qui a fait une thèse, doctorat, une thèse sur Jules Michelet. Et voilà, elle m'a donné une fille, Nagisa, qui a 20 ans, qui rentre en quatrième année d'architecture, qui est donc un mélange, voilà, du japonais, de l'Asie. Et donc moi, je suis assez ouvert, finalement, au monde. Et je trouve sympathique que les Belges soient comme ça.
Ce que je vois, c'est que, bon, par rapport à mon beau-père, c'est deux mondes de la bourgeoisie différents, ce que vous décrivez. Vous, c'est la bourgeoisie plus contemporaine, ouverte au monde, cosmopolite. Il est plus ancré dans sa localité, c'est un notable local, vous voyez.
Le profil de votre beau-père, il est ici représenté, alors typiquement, par M. Bernard Darty. C'est pas un secret de le dire, tout le monde sait qu'il habite à Bruxelles. Et je vous assure qu'il s'est intégré formidablement, que tout le monde le connaît, etc. Qu'il n'ait pas d'inquiétude.
Alors voilà un homme ouvert au monde et un bourgeois ouvert au monde. Alors on dit, oui, mais le bourgeois, c'est quelqu'un qui bouge pas. Erreur, erreur, erreur. Depuis longtemps, la bourgeoisie, depuis longtemps, bien longtemps, les classes dominantes, et c'est peut-être l'une des raisons de leur domination, sont cosmopolites, sont internationales. Mais bien évidemment, parce que les affaires sont les affaires, et les affaires, on les fait n'importe où. Les affaires n'ont pas forcément de patrie. Donc on suit les affaires, et puis on s'installe de ci, de là, et là on noue des liens, selon cette stratégie liée à ce monde social, et peu à peu, on connaît la planète, on y a ses lieux, on y a ses liens et on est cosmopolite. Et vous connaissez un chant qui s'appelle l'international. Pourquoi y a-t-il eu cet international qui voulait unir les prolétaires de tous les pays, unissez-vous? Pourquoi s'unir tous ensemble, mais contre qui? Eh bien contre cette domination cosmopolite du monde, cette autre internationale qui était et reste celle de cette classe dominante mondialisée. La mondialisation est une vieille histoire, et cette vieille histoire, ces bourgeois internationaux, cosmopolites, l'illustrent à merveille, évidemment, que lorsqu'on est international, lorsqu'on est... Ben oui, pourquoi pas citoyen du monde, le mot cosmopolite, je crois que c'est à peu près ce que cela veut dire.
eh bien, on a du recul, on a de la hauteur, et la hauteur, eh bien, c'est la position du dominant. On parle plusieurs langues, on a des informations multiples, on sait où on se trouve, on peut de cette façon voir venir les coups et s'organiser, et surtout se maintenir, c'est impératif. Voilà ce qu'en pense Anne-Catherine Wagner, qui est sociologue et auteure de Classe sociale dans la mondialisation. Catherine Wagner.
Le cosmopolitisme a toujours été un attribut des classes dominantes. Hein. Enfin, on peut penser même à la noblesse qui est de fait européenne, hein, avec des ramifications dans différents pays. La bourgeoisie d'affaires est internationale depuis le 19e siècle et même avant, hein, depuis le Moyen-Âge, avec les traditions de marchands, etc. Le cosmopolitisme, le fait de s'inscrire dans une dimension internationale, c'est vraiment un attribut très très ancien des classes dominantes. Au 18e siècle, par exemple, dans toute l'Europe, l'aristocratie ne parlait que le français. En Allemagne, il y avait toute une tension entre la bourgeoisie allemande qui revendiquait de parler allemand, etc., et l'aristocratie cour qui ne jurait que par le français, par la cour de France, etc., etc. Donc il y a toujours eu une classe qui se définissait par un rapport privilégié avec l'étranger et qui méprisait les basses classes qui ne parlaient que la langue nationale, etc. Alors la bourgeoisie, c'est une classe qui ne se voit pas à l'échelle d'un seul pays. Et donc il y a une éducation sur l'étranger, il y a une ouverture souvent sur plusieurs générations. Ce sont des gens qui souvent ont des membres de leur famille déjà à l'étranger, il y a des intermariages depuis plusieurs générations, et c'est une éducation, justement, l'idée d'apprendre les langues très tôt. C'est déjà au début du siècle, hein, il y avait le fait d'avoir des nurses anglaises ou espagnoles, aujourd'hui des babysitters, des écoles internationales, le fait de voyager très souvent. Ça forme à considérer que l'espace de référence, c'est pas le local, c'est l'international, qu'on peut être chez soi partout, et ça c'est un atout énorme, enfin justement.
On va déjeuner.
Monsieur Latour.
Bon, alors ici, nous sommes dans le salon. Je vous explique un peu. Vous voyez, vous avez autour de vous un décor africain. C'était la salle à manger de Monsieur Mobutu. Donc, ici, vous voyez, dans cette salle, par exemple, vous avez autour de vous tous les grands épisodes de la vie de Mobutu. Voilà. Alors, vous avez une grande photo. Il a son chapeau traditionnel en peau de léopard. Et puis, vous avez un miroir qui est fait de cornes de zébu ou je ne sais quoi, et vous avez tout le décor, les tissus, tout, et on a voulu reconstituer l'Afrique.
Les tissus sont des tissus zébrés. Hein.
C'est des zébrés, oui, c'est du zébré, mais ce n'est pas du zèbre. Et puis comme moi j'ai fait la fondation Brigitte Bardot, il est bien évident que si ça avait été des vraies peaux de zèbre, je ne serais pas venu. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a dans votre assiette ?
Il y a des petites tomates, comment appelle-t-on ça, Anne-Marie ?
Tomates cerises.
Avec des petits croutons, un peu de salade et un petit coulis, à mon avis, de tomates.
Coulis ?
Un coulis de tomates.
On va le goûter.
On mange extrêmement bien.
C'est quoi ça ?
C'est excessivement bon.
Ça.
Et à droite, c'est une stupidité invraisemblable. Parce que moi, par exemple, il y a des idées de gauche pour lesquelles je suis 100%, et il y a des idées de droite pour lesquelles je suis 100%. Oui. Par exemple, je suis tout à fait contre la peine de mort. Donc, je veux dire, je trouve ça tellement réducteur.
Tu as raison.
Réducteur. C'est vraiment
réducteur. C'est un problème de société. C'est absolument vrai.
C'est juste parce que les gens ont besoin.
Qui n'existe pas en Belgique. Il n'y a pas de gauche et droite en Belgique.
La campagne de Nicolas était un peu ça.
Oui.
Hein, c'était voilà. Un peu autour de ça. Et ça, c'était très intelligent. Je suis tout à fait d'accord.
C'est intelligent, mais depuis le temps qu'on attend,
Pas de sectarisme.
Mais
voilà.
Non.
Pas de
non.
Sectarisme.
Moi, j'avoue que je pourrais.
En Belgique, c'est très, très mélangé.
Alors, puisque nous sommes à Bruxelles, parlons de la construction de l'Europe. Mitterrand a joué un rôle déterminant, très important dans la construction de l'Europe. C'était un Européen convaincu. Il a tiré l'Europe vers le haut, c'est incontestable, et ça on le lui doit beaucoup, parce qu'aujourd'hui, le salut de la France, il passe par l'Europe.
Ça, c'est vraiment évident.
Parce que si la France est franco-française, quel désastre.
Ça, il a fait beaucoup, ça, François Mitterrand a fait beaucoup pour l'Europe, et c'est vrai que la France serait foutue s'il n'y avait pas l'Europe.
Bah oui. La table ici à côté, sans être indiscrète, c'est donc mon amie Amélie Outremont qui est là. Et je pense que les deux personnes qui sont en face sont deux Français, parce que la dame vient de dire. Et quelle est la différence fiscale entre la France et la Belgique, etc.
Pour leur donner des questions. Le 7-228 avenue Louise.
Oui,
je le dirai à Amélie.
Alors voilà, voilà, un déjeuner agréable, une conversation pétillante avec donc Jacques Tajan, Anne-Marie Mitterrand, quelques autres encore. Et on nous fait remarquer qu'à la table voisine, bah oui, partout, on écoute un petit peu, on est les oreilles qui traînent, il y a une personne qui s'appelle Amélie d'Outremont, Amélie d'Outremont de la Banque Fortis, qui parle avec des Français qui s'intéressent à l'exil fiscal. Et Jacques Tajan conseille à nouveau la société d'exil fiscal le 7. Il pense que c'est ça la clé, ça vous intéresse sans doute. Hein. Il y a pas mal d'auditeurs qui sont en train de se dire « Mais on va vite s'installer à Bruxelles, nous aussi, il n'y a pas de raison, on a beaucoup d'argent et on en a marre du fisc français, nous aussi, nous sommes des candidats à l'exil, à l'immigration. » Et donc voilà les bons tuyaux que vous donne là-bas si j'y suis. Merci là-bas si j'y suis. Et on va parler d'exil fiscal, mais on va parler aussi de mécénat. Parce que ça, c'est très important de justifier les privilèges. Je le disais en commençant, le pognon, le pognon, le pognon. C'est bien, mais il faut habiller tout ça, parce que c'est comme ça un peu... Bon, donc il faut justifier les privilèges, c'est ancien. Et l'art, le mécénat, eh bien, est un des moyens, l'un des moyens de justifier les privilèges. Voilà le point de vue de notre sociologue Anne-Catherine Wagner.
C'est que l'argent ne suffit pas, il faut le légitimer. Il faut donner des raisons et peut-être aussi se donner des raisons à soi-même d'être fortuné. Donc ça, c'est une des fonctions de la culture aussi, c'est de donner cette légitimité qui fait que c'est pas uniquement pour avoir plus d'argent qu'on part en Belgique, mais c'est aussi, j'imagine, par ouverture d'esprit, pour connaître un autre pays, pour s'ouvrir, par etc. Et ça c'est une dimension très très importante qui vise aussi à peut-être faire oublier la violence de ces formes d'accumulation. Enfin, c'est la fonction de l'idéologie qui est très importante. Et la mondialisation, en ce sens-là, est très intéressante, parce qu'il y a toute une série de discours justificatifs de la mondialisation où on mélange les arguments économiques, mais aussi, justement, les arguments intellectuels. Tout le monde est d'accord qu'il faut s'ouvrir sur l'autre, etc., etc. Donc, et la mobilité, c'est pas seulement la mobilité du capital, c'est la mobilité de l'esprit, c'est montrer qu'on est ouvert, qu'on est flexible, qu'on est tolérant, qu'on n'est pas... Et celui qui est immobile, c'est celui qui est fermé, qui est borné, etc., etc. Et tous ces glissements sémantiques sont très importants pour justement justifier les privilèges, ce qui est évidemment la fonction de tous ces discours.
C'est secret.
Ces personnes sont là.
On est à titre.
Ouais.
Moi, je parle essentiellement de mécénat. Uniquement.
Vous parlez seulement de mécénat, oui. Et là on parle seulement de
art. Et je vous parle d'art.
Et on parle objet d'art.
Et vous me dites Fortis. Alors on va faire un peu de pub pour Fortis. C'est quoi?
C'est une banque assurance, une grande entreprise internationale de banque assurance. Et nous avons en 1996 créé une fondation qui a pour objectif uniquement la lutte contre l'exclusion sociale. Dans trois domaines différents, les enfants, les jeunes et la solidarité entre les générations. C'est 2 millions de budget, 247 projets soutenus cette année-ci au sein de la société civile dans le domaine de l'exclusion sociale. Et voilà, et ça fait 11 ans qu'on travaille là-dessus. Et pendant ce temps-là, le taux de pauvreté en Belgique grimpait de 6% à 15%. Donc vous voyez qu'on n'est pas assez nombreux pour se mettre ensemble, pour travailler.
Donc là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au Cercle de Lorraine, à une table à côté de nous, vous étiez en train d'inviter monsieur qui est français à participer justement aux actions...
Notre point commun, c'était l'assurance des objets d'art. Donc, c'est mon core business, je veux dire. Et puis, comme qui dit art, dit fondation, dit mécénat, parfois, il arrive de lâcher le bébé et de faire rencontrer des mécènes qui n'ont plus rien à voir avec de l'art. Mais ça, c'est le networking féminin, on va dire.
Vous, Fortis, votre fondation, ce que vous faites, c'est cette image que je connais bien, qui est très belle. Une image des deux mains qui se rejoignent, voilà. Vous voyez. La main du pauvre, la main du moins pauvre.
La main de celui qui donne et la main de celui qui reçoit.
L'humanitaire.
Il y a un taux de pauvreté de 15% en Belgique.
En 10 ans, et à Bruxelles, le taux de pauvreté a augmenté de 6% à 15%. L'État n'a vraiment pas les moyens de subvenir à tous les besoins qui sont de plus en plus graves. C'est insupportable, je veux dire, pour un des pays aussi riches que nous, d'avoir ce taux de pauvreté en permanence à côté de soi. Il y a quelque chose de tout à fait insupportable. Donc il y a à faire, et à faire ensemble. C'est-à-dire que l'État ne peut pas faire tout seul. Donc si on ne crée pas des outils pour que les entreprises soient encouragées à participer à l'évolution d'une société, elles ne le feront pas parce que ce n'est pas leur métier.
Ce que je voulais vous dire quand même, c'est que le mécénat, ça existe, que les gens malheureux, ça existe, et que dans tous les pays du monde, il y a des œuvres charitables, mais on peut dire caritatives, ça fait plus chic, c'est plus moderne, mais il y a des gens qui s'occupent des gens nécessiteux. Et je dis, en Belgique, plus qu'ailleurs, un peu comme aux États-Unis, la Belgique ressemble à cet égard un peu aux États-Unis, quand les personnes privées, les entreprises sont sollicitées pour apporter leur aide à la jeunesse, aux enfants, aux personnes malheureuses, malades, etc., à la recherche médicale, etc., eh bien, les Belges répondent comme personne. Il y a une générosité belge que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors ça aussi, il faut le dire.
Il y a beaucoup de développement caritatif sur Bruxelles, enfin, beaucoup de possibilités d'aider les pauvres.
Oui, il y a à côté de chez vous, à côté d'ici, il faut y aller parce que c'est vraiment un autre monde. Il y a des quartiers qui sont vraiment des quartiers défavorisés, immenses, dans lesquels il y a une population qui vit en autarcie, qui n'a jamais été dans le haut de la ville, qui ne sait pas où c'est ici le sac de Lorraine. Je veux dire, jamais, oui.
La belle-mère s'occupe pas mal d'œuvres caritatives sur la Amiens, donc elle pourrait trouver des prolongements ici. Quoi.
Ça, alors là, je peux l'aider.
Pas de lettres.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. Jérôme Vec, monsieur de l'Épine.
De l'Épine. Et vous êtes ?
Je suis François Latour.
François Latour.
Oui.
Et vous ?
Alors, voilà, là, on est en train de se dire que c'est pas forcément la peine, amis riches auditeurs, d'aller à Bruxelles pour vous renseigner. Peut-être que vous pouvez rester sur Paris et contacter cette société qui peut vous aider pour votre installation dans un pays où vous ne paierez pas d'impôts sur la succession, sur la plus-value, sur votre fortune, etc. C'est à Paris, écoutez bien.
Ce que vous proposez, c'est un peu l'expatriation clé en main ou comment?
Je reste à la carte. Enfin, c'est suivant ce qu'ont besoin le client. En général, la question me parle de Paris, c'est que je rencontre les gens, je veux savoir ce qu'ils recherchent. S'ils ne connaissent pas Bruxelles, je commence toujours par les accompagner à Bruxelles et faire un tour de Bruxelles. Parce qu'une fois qu'on a trouvé un bien, que ce soit loué ou acheté, il faut, pour avoir sa carte de résidence, faire des inscriptions en commune. Et là, j'ai une personne qui travaille avec moi aussi depuis 7 ans, qui connaît bien les communes. Et c'est vrai que si on y va et on fait la queue, j'avais là un ami qui s'est installé, qui m'a dit « Mais non, je ne veux pas te déranger, je vais tout faire moi-même. » Ça fait 6 mois qu'il me dit qu'il a sa résidence en Belgique. Il y a eu qu'il n'a toujours pas sa carte de résident.
Donc en moins d'un mois, on passe par vous, qui avez des contacts au sein des communes,
par le biais du conseil, je rentre en contact avec des personnes sur lesquelles je propose nos services de gestion de patrimoine. Ça peut être 1 million, 2 millions d'euros, on démarre.
Le 7, c'est pourquoi c'est le jeu de cette famille ou...
Le 7, c'est 7 jours de travail. J'ai commencé en 1999. Ont été mes premiers expatriés. Les premiers ont été d'abord en Suisse et très vite après en Belgique.
Je vous demande ça parce que vous avez vu pas mal de personnes passer. Moi, ça serait ma seule inquiétude. C'est pour la reconstruction sociale, pour ainsi dire, du réseau social. Elle se fait naturellement.
Il y a toujours un coup de déprime. Toujours. Et ça, je le dis parce qu'il faut que l'on se prépare. Et c'est pour ça que je dis, ça fait partie aussi un peu de l'accompagnement.
Vous ne lisez quand même pas des adresses de psychologues.
Non. Mais je dirais d'être présent. J'ai un bureau qui est installé là-bas, donc au départ, on a besoin tout d'un coup d'un médecin, d'un chirurgien, d'un dentiste. Ils appellent mon bureau, ils passent à mon bureau, on organise les rendez-vous.
Vous êtes un facilitateur de vie, quoi, pour...
On peut l'appeler comme on veut, mais j'ai quand même maintenant expatrié et installé 35 personnes en Belgique, finalement 4 ans, une dizaine en Suisse et puis 2 en Angleterre. Mais bon, si j'ai arrêté, on ne peut pas être partout.
Vous avez vu passer des dizaines, peut-être des centaines de personnes. Ça devait représenter des fortunes assez considérables. Vous intervenez auprès du gouvernement français pour lui dire...
Écoutez, je suis intervenu aussi bien auprès de Fabius, aussi bien auprès de Sarkozy. Donc, les gens m'ont dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas empêcher les gens de vouloir partir. J'ai dit, mais ce sont quand même des contribuables. On parle pour deux choses. Un, l'ISF, et deux, l'impôt de plus-value. Donc, on pourrait peut-être regarder ces deux points, parce que c'est les deux points essentiels. Pas la réponse, ni de l'un, ni de l'autre.
Très bien. Écoutez, moi, j'ai pas de carte de visite. Vous avez mon nom.
J'avais votre.
D'accord. Je vais faire.
À votre disposition.
D'accord. Dès la semaine prochaine, je vais faire un débriefing. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre accueil.
Je vous en prie. Je vous raccompagne.
On vous recontacte dans la quinzaine.
Quand vous voulez.
Merci.
À bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Ah oui, c'est quand même dommage qu'ils s'en aillent pour des questions d'argent, ces gens-là. Mais peut-être que avec le nouveau président, ça va s'arranger. Quoique ça n'a pas l'air d'être, bien sûr, et pourtant, on a fait des efforts. Enfin, le nouveau pouvoir en France a fait des efforts avec ce paquet fiscal qui représente une perte de l'ordre de 13 milliards d'euros pour les finances publiques. Il faut rappeler que le trou de la sécurité sociale n'est pas aussi élevé, puisqu'il culmine à 12 à 13 milliards pour 2007. Et voilà, par exemple, les aménagements fiscaux en matière d'héritage représentent un manque à gagner de 2,2 milliards d'euros pour les finances publiques. Et on peut comparer ça, par exemple, au projet de solidarité de Martin Hirsch, qui est de 25 millions. C'est-à-dire 88 fois moins que les nouvelles exonérations liées aux transmissions d'héritage. Tout à l'heure, on parlait de cette fondation contre l'exclusion sociale qui a un budget de 2 millions d'euros par mois. C'est quand même pas beaucoup et ça n'a pas visiblement empêché le pourcentage de pauvreté à Bruxelles de passer de 6 à 15%. C'est beaucoup de chiffres tout ça, mais c'est quand même précieux d'avoir le point de vue d'un économiste comme Christian Chavagneux, qui est l'auteur de Les paradis fiscaux aux éditions de la Découverte et qui est rédacteur en chef adjoint au mensuel Alternative économique. Christian Chavagneux.
Et l'ISF, si on l'enlevait, est-ce que vous pensez que ça convaincrait ?
C'est fait déjà. Le bouclier fiscal permet, mis en place depuis cet été, permet pratiquement, sans le dire, de supprimer l'ISF. Ça concerne extrêmement peu de personnes. Les gens qui en sont à payer 50% de leurs revenus parce qu'ils sont dans les tranches les plus élevées, ça concerne une infime minorité de personnes.
À peu près combien en France ? Parce que moi, je pensais que tout le monde allait bénéficier de ce paquet fiscal. Et c'était Nicolas Sarkozy qui disait, vous allez voir, les impôts, je vais en enlever, tout le monde va pouvoir en bénéficier.
C'est un cadeau fiscal qui va bénéficier véritablement, je dirais, aux 1% des personnes les plus riches en France. Par contre, ça va coûter beaucoup, puisque on estime entre 12 et 15 milliards.
Moi, je tombe un peu des nues, quoi. Un président qui fait un cadeau fiscal, parce que là, c'est proche du cadeau, de 12 à 15 milliards d'euros. Donc, 12 à 15 milliards d'euros, déjà, il faut essayer d'imaginer ce que ça peut représenter, c'est un peu compliqué à imaginer, pour seulement 1% de la population.
L'opposition politique a réagi, elle a dit ce qu'elle pensait de ce transfert au profit des plus riches, ça s'appelle tout bêtement du clientélisme politique. Le symbole quand même du président Sarkozy, élu, pas encore nommé président, mais qui fait une fête dans un très grand restaurant parisien et qu'on retrouve quelques jours après dans un paradis fiscal, Malte. Sur un bateau, il faudra vérifier, peut-être qu'il était en pavillon de complaisance. Donc, il nous donne vraiment l'image. Après avoir soutenu l'initiative de Johnny Hallyday pendant la campagne présidentielle en disant qu'il avait raison de vouloir quitter la France parce qu'il était trop imposé, on a l'image d'un président qui allie à la fois un volontarisme politique fort, mais qui ne va pas s'en donner les moyens, puisqu'il pense que, visiblement, l'impôt n'est pas quelque chose d'important pour la gestion de la France. Donc il va très rapidement se heurter à un problème, donner des cadeaux fiscaux aux plus riches, et en même temps, il se prive par là même de recettes fiscales importantes qui vont aller à l'encontre de son volontarisme politique, et son volontarisme politique devient un volontarisme financier qui, à moyen terme, devra passer par un rééquilibrage des recettes fiscales, d'où les projets dont on entend parler de TVA sociale qui, là, seront payés par l'ensemble des contribuables, puisqu'on consomme tous quand même, et on assistera à un véritable transfert fiscal, une charge fiscale beaucoup moins chère pour les riches, une charge fiscale beaucoup plus importante pour les pauvres, ou pour les gens normaux, je dirais.
Ça klaxonne pas.
C'est vrai que je connais mal. Non, je suis réputée pour ça. Ne vous inquiétez pas. Il paraît qu'il y a très peu de gens qui l'avouent. Maintenant, moi, j'ai toujours trouvé que je conduisais très mal. En fait, avoir de l'argent implique une charge morale qui embête un peu les gens de temps en temps. Et vous aussi, vous préférez être professeur, tranquille.
que d'avoir ce gros poids qui est quand même de gérer au mieux, de se donner du mal. Et pour garder son argent, il faut beaucoup travailler. Moi qui ai vécu toujours dans des grands appartements, avec des tas de choses et de l'argent. Ici, j'ai rien. J'ai rien. Mais c'est assez agréable. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est assez agréable.
La légèreté du vide.
Ah, mais c'est pas si mal. Il faut pas croire. Il y a du bon. Cette espèce de responsabilité. Bon, moi, je n'ai pas gagné mon argent. Peut-être qu'on l'a moins quand on gagne sa vie. Peut-être que c'est moins. Mais cette responsabilité de l'argent qu'on vous a donné, c'est... Je ne m'en plains pas. Mais ça aura été une responsabilité qui m'aura pesé toute ma vie. Enfin, je veux dire, j'aurais fait attention toute ma vie. J'estime...
C'est pour ça que vous êtes exilé, d'ailleurs.
Je ferai tout pour respecter ce que m'ont donné mon père, mon grand-père, mon grand-père. C'est la théorie, la politique des talents. C'est un truc catholique, ce machin, les talents. Donc les talents, c'est vous recevez beaucoup, mais vous devez redonner non seulement ce que vous avez reçu, mais en plus de tout, plus. Politique des talents. Le travail, les talents, la patrie, toutes ces choses importantes. Et c'est aussi fatigant. C'est vrai que c'est fatigant. Moi, je me rappelle, mes enfants, je leur ai jamais acheté un truc sans le comparer le prix de leur achat avec le SMIG. Ça coûte très très cher, ces machins jeunes là. C'est du délire, le jean à 920.
Qu'est-ce qu'il m'a fait ? À 900 euros ?
C'est 900 euros le jean ? C'est 1000 euros le jean, non ? Non. Disons, un jean normal, 300 euros.
Facile.
Moi, je leur disais, mais attendez, vous savez que le SMIG était à 950, donc vous portez un machin sur vous qui coûte un tiers du SMIG.
Et c'est au nom de cette culture-là, enfin, ce sens de l'héritage, que vous trouvez aussi insupportable les impôts sur les successions, parce qu'il vous faut donner plus que vous avez reçu?
Ben, aujourd'hui, l'impôt sur la fortune est devenu plus cher que l'impôt sur le sel. Enfin, je veux dire, l'impôt sur la fortune est devenu trop cher, quoi. Parce que le riche doit payer des impôts, que c'est son rôle. Donc je suis d'accord pour payer des impôts. Maintenant, il s'agit quand même de le laisser respirer.
Moi, j'ai le sentiment d'avoir été favorisé par la vie.
Oui.
Au niveau des études, j'ai déjà eu un coup de main. Ouais. Je ne sais pas s'il y a la nécessité qu'encore je reçoive une manne providentielle de quelques millions d'euros au décès de mon père ou avant. J'ai l'impression que ça sera du superflu.
Alors, je pense que ça, c'est le métier des parents d'apprendre aux enfants à avoir conscience qu'ils ont été bénis des dieux et que ça n'empêche pas de travailler.
Mais vous voyez, peut-être, je sais pas, peut-être que dans votre famille, vous êtes d'une bourgeoisie plus installée, plus ancienne.
Très ancienne, oui.
Peut-être
pour ça.
Vous êtes de...
1830. Là où on était très riche, c'était en 1830. Ça fait longtemps.
À la Restauration, alors après la Restauration...
Mon arrière-grand-père avait fait fortune en 1830 et depuis on vit un peu dessus quand même. Hein. Mais il y en a de moins en moins. Hein. Voilà, alors là on descend vers les étangs. Et voilà, moi j'habite une petite maison bleue là. Elle est mignonne. Hein.
Blanche avec des petits volets bleus qui donnent sur l'étang où on entend les canards.
On entend les canards. C'est divin, c'est extraordinaire. Et voilà le Canterbury. La fameuse cantine où on ne réserve pas. Allez, on y va.
La cantine.
Un reportage de Pascal Le Pascariello avec l'aimable participation de François Latour. Merci à Anne-Marie Mitterrand, au vicomte Jung d'Andois d'Elpe, à Jacques Tajan, à Olivier Delépine et merci également à Christian Chavagneux, Anne-Catherine Wagner et Vincent Drezet. À lire « Les classes sociales dans la mondialisation » d'Anne-Catherine Wagner aux éditions La Découverte, ainsi que « Les ghettos du Gotha » de Monique et Michel Pinson-Charlot aux éditions Du Seuil. Mais toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique « Émissions ». Puis, là-bas si j'y suis, à la technique aujourd'hui, c'est Claudine Lapersonne et Philippe Duclos. Réalisation Coyenne Guyenne et Raphaël Moutarde, assistante Charlotte Perry, chef Feu. du répondeur, Agnès Lebot. Quant au numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.